Si nous regardons la conduite de Dieu dans la première alliance, nous voyons bien que Dieu conduit son peuple en l'intériorisant de plus en plus. Et qu'il y a toute une œuvre de l'Esprit Saint qui s'est fait. La cantique des cantiques dans le cœur d'Abraham et de Sarah, c'est quelque chose. Ce serait intéressant du reste à le faire. Parce qu'on verrait toute la distance qui existe. Et c'est le même esprit. Déjà présent et qui nous donne le cantique des cantiques en passant par tous les prophètes. Faut de temps en temps bien comprendre ces contrastes que l'Esprit Saint nous fait saisir. C'est un artiste, l'Esprit Saint, c'est l'artiste de l'amour. C'est comme ça qu'il faudrait faire la théologie de l'Esprit Saint. Grand artiste de l'amour. Parce que c'est vrai, c'est le grand artiste de l'amour. Et quand vous regardez le Nouveau Testament, vous voyez que tout s'achève dans le mystère. Jésus et de Marie. Le cantique des cantiques vécu à la croix et pleinement vécu à la croix. Alors là, c'est le dépassement même du cantique des cantiques. Alors que Abraham et Sarah, soi, j'allais dire. C'est pas commode, c'est évident, puisque les béatitudes évangéliques, c'est vraiment le fruit des dons du Saint-Esprit. Et ce fruit des dons du Saint-Esprit, c'est ce qu'il y a d'ultime. Je crois que nous devons comprendre que le cantique des cantiques doit être vécu dans une très grande intériorité. Dans l'Église, progressivement, l'Esprit Saint fait vivre de cette intériorité toujours plus grande. L'Esprit, c'est celui qui nous est donné pour cette intériorité. Cette intériorité toujours plus profonde. Alors essayons de comprendre les vœux dans cette lumière à travers le cœur de Jésus et le cœur de Marie. Ainsi, séparément unis à la croix. Les béatitudes évangéliques sont vécues à la croix, dans le cœur de Jésus. Et les béatitudes évangéliques sont vécues dans le cœur de Marie, dans son mystère de compassion. Marie explicite pour nous ce que Jésus vit. Marie nous fait saisir maternellement, c'est-à-dire sans parler, mais en mourant comme les innocents, non loquendo sed moriendo. C'est, je crois, ça le propre de l'enseignement d'une mère, parce que Marie, c'est le grand silence dans l'Église. C'est ça qui est assez extraordinaire, c'est le grand silence, c'est le désert. C'est l'adoration et la contemplation. Et c'est le silence. Et c'est le silence du cœur de l'épouse. C'est le silence de celle qui est éduquée par l'Esprit Saint. Nos vœux nous conduisent à ce silence et nous font vivre ce silence. Et nous font vivre ce silence dans cette intériorité de l'Esprit Saint. Nous manifestons ce silence d'amour. C'est sûr. Puisque nous sommes témoins, il ne faut pas oublier que c'est cela qui est essentiel, c'est cette vie d'amour et d'intimité avec le cœur de Jésus. Regardons successivement chacun des vœux dans cette lumière, pour que nos vœux ne soient pas vécus de l'extérieur comme des barrières. Super morale, une super loi, que les vœux de religion aient été vécus à certains moments comme ça, Port-Royal. Port-Royal serait le modèle merveilleux de cela. Faut de temps en temps relire certaines choses de Port-Royal pour comprendre la caricature. Pharisiens de la vie religieuse, je crois que c'est les pharisiens de la vie religieuse, au carré. Et c'est toujours important parce qu'on est très marqué par Port-Royal en France. On est très marqué par ça, beaucoup plus qu'on ne pense. Parce que ça a été la cause exemplaire dans toute sa force. Dès l'âge aussi. Mais c'est plus lointain que l'âge pour nous. Tandis que Port-Royal est beaucoup plus proche. Et je crois que l'Esprit Saint aujourd'hui nous demande de vivre dans une très grande intériorité nos vœux. Et vivre dans l'intériorité, c'est pas les supprimer. Hein. C'est du formalisme, les vœux. C'est du formalisme, la vie monastique. Donc on la veut, on la jette. Les vœux doivent être vécus de l'intérieur par l'Esprit Saint et en l'Esprit Saint, en Marie et par elle. Ils sont vécus, ils ne sont pas rejetés. Rejeter les vœux selon certaines attitudes d'aujourd'hui, ça se sent très fort. C'est une conséquence du freudisme. Il faut appeler les choses par leur nom. Quand on a un peu fréquenté des freudiens en pratique, c'est-à-dire des psychanalystes freudiens, on voit, j'allais presque dire, la haine qu'ils ont vis-à-vis de la vie religieuse. Et c'est, à ce moment-là, c'est aussi très intéressant, pas royal, et l'antithèse. Il est vraiment intéressant de voir ça, parce que ça nous aide à mieux comprendre. Et à mieux saisir. Alors là, on libère. Théologie de la libération des vœux. Et théologie de la libération des vœux, c'est renvoyer, promener le formalisme des vœux. En oubliant que s'il y a eu un formalisme des vœux, on ne doit pas rejeter les vœux. On doit les vivre de l'intérieur. On doit en vivre l'esprit. Et cet esprit s'incarne pour nous. Nous ne sommes pas des anges. Qui peut faire l'ange fait la bête. Et ça arrive de temps en temps. Ça continue de se faire. Il faut vivre de l'intérieur, les vœux. L'Esprit Saint en premier lieu nous fait vivre. C'est un peu le fondement. Si on regarde le fondement, l'aspect spécifique et l'aspect dernier dans la théologie de l'économie divine, on peut dire que la pauvreté, c'est le fondement. C'est la grosse taille. Et c'est peut-être le vœu dont on a le plus peine de vivre de l'intériorité. Parce que la pauvreté semble être tout de suite liée, et c'est vrai, à quelque chose de visible, temporel. Le vœu de pauvreté s'exprime tout de suite à travers une manière de vivre. La manière de vivre des pauvres, c'est d'accepter de vivre dans des lieux qu'ils n'ont pas construits eux-mêmes. Comme on dirait aujourd'hui, des lieux non fonctionnels. C'est net, hein, la providence nous a conduits comme ça. La providence peut conduire d'autres autrement. Ça, on doit le comprendre. Mais pour nous, c'est très net. La providence nous a conduit là où on n'aurait pas aimé aller. Et c'est bien. Alors, il faut comprendre que psychologiquement, sociologiquement, quand la providence nous conduit en face de lieux que humainement nous n'aurions pas choisi. Et c'est, je crois, la première manifestation de la pauvreté, ça, dans l'ordre fondamental, dans l'ordre génétique. La pauvreté temporelle, c'est ça en premier lieu. C'est d'accepter d'avoir une carcasse qui vient de l'extérieur et qui n'est pas à notre taille. Parce que c'est rude, c'est pas commode. C'est comme prendre l'habit trop grand. Tu vois. voisin qui était précédent à nous, on est toujours mal vu. Quand vous avez un habit trop grand, vous troussez. Quand vous avez un habit trop petit, vous êtes obligé de vous dégringoler. Marchez presque à quatre pattes. On voit trop. Et c'est ça, au fond, cette première pauvreté. C'est visible. C'est quelque chose qui nous est imposé de l'extérieur. Vous voyez, l'intériorité est vécue d'abord par cette grosse manifestation à l'extérieur et devant quelque chose qui nous est imposé comme ça de l'extérieur. J'avais demandé à ce moment-là au père infirmier. phénomène de groupe. Ce serait très intéressant de l'analyser, tu vois. Mais moi, ici, je prends du côté de la pauvreté. Et là, j'ai essayé de faire comprendre cette pauvreté première, l'habitat, l'aliment. Et dans l'habitat, je mets aussi le costume. Pourquoi en a rejeté le costume religieux ? Manque de pauvreté. Avant tout, reprendre chacun sa manière d'exister. Jusque dans les cheveux. C'est vrai, on comprend très bien ça. C'est tout à fait psychologiquement, c'est tout à fait normal qu'on veut manifester son originalité, son individualité de cette manière. On échappe à la loi commune. C'est rude la loi commune. C'est très rude au point de vue pauvreté. C'est l'anonymat. C'est pas commun de l'anonymat. L'anonymat du sépulcre. Hein. C'est l'anonymat. Il faut qu'on regarde ça avec beaucoup d'objectivité. Parce que c'est l'artiste divin qui fait ça. Et l'artiste divin veut que nous ayons ce sens de la pauvreté. Et la pauvreté, ça nous prend jusque-là. Ça nous prend dans notre sensibilité. Ça nous prend dans notre corps. Ça nous prend dans notre... Et c'est pas commode. C'est rude. Surtout dans notre monde d'aujourd'hui. Et je dis bien dans notre monde d'aujourd'hui. L'habitat, l'habit. La nourriture. C'est la base de toute vie commune. Parce que dès qu'il n'y a plus de vie commune, chacun a son régime. Chacun a ses fantaisies. Et on les manifeste dans l'ordre de la nourriture parce que c'est tout à fait primitif la nourriture. C'est le genre, hein. C'est l'aspect générique. C'est l'animal qui a besoin de se nourrir. Alors quand l'animal ne veut plus accepter le genre, il veut sa singularité. Et sa singularité, elle se manifeste comme ça. Alors de temps en temps, c'est tout à fait légitime. C'est objectif. C'est le médecin qui vous dit, voilà, il vous voit à tout prix ce régime. Très bien. À ce moment-là, ça peut être très vertueux d'accepter un régime. Parce que, ouais, extérieurement, on n'est plus entièrement dans la vie commune. Mais, voyez, la différence de la rapine et de la vertu. Ne jugez pas selon les apparences. Selon les apparences, vous ne pouvez pas dire régime avec un petit drapeau rouge, régime avec un petit drapeau vert. Le petit drapeau rouge, régime rapine. Le petit drapeau vert, régime obéissance. Ne jugez pas selon les apparences, parce que ça c'est la vie commune. Vous savez bien que dans la vie commune, le repas, c'est tout à fait fondamental. Comme disait mon père bénédictin, c'est pas au cœur qu'on voit le nombre de religieux. Surtout le matin à l'oraison. C'est au repas de midi. Au repas de midi, vous voyez le nombre de religieux. Et maintenant, comme on a inventé le self-service. Self-service, je n'ai rien contre, mais il faut faire un petit peu attention. Le self-service peut être encore une manière d'éviter la pauvreté de la vie commune. La vie commune, ça nous rappe dans notre peau et dans notre estomac. Ça nous rappe. C'est très très net. C'est la grosse paille de fer de l'Esprit Saint. C'est le fond.
Parce que c'est l'ordination.
crois que c'est là où on sent le mieux ce que c'est que la pauvreté de fait. Pas des choses extraordinaires, c'est le pain quotidien. Et le pain quotidien, c'est cela. C'est important de saisir ça. Cette vie commune de prisonnier du Saint-Esprit Je crois qu'il faut de temps en temps remercier la Vierge Marie de nous donner une cellule. Parce que ça vous fait feu de pauvreté. Et de nous donner un lieu où on peut travailler. Et pas être dans une espèce d'attitude de rouspétance. Parce que de fait, je comprends très bien que cette rouspétance installative, mais, chassant le vieil homme, ou la vieille femme qui réclame son lieu, qui réclame. Et quand vous visitez des vieillards qui ne sont pas à l'hospice, des vieillards qui sont dans des lieux quand même de béguinage, genre de béguinage d'aujourd'hui, des maisons de retraite. Alors il y a le fauteuil sacré, sacro-saint, il y a le lieu, et ainsi de suite, la bibliothèque, il y a tout. On sent très bien qu'on se réfugie dans ces lieux-là. Eh bien, la pauvreté, de fait, consiste à accepter que rien ne nous appartient. Rien ne nous appartient. C'est mis à notre usage. C'est très rude. Hein. C'est très rude. C'est fondamental comme purification. Alors, notre santé ne nous appartient pas. Qu'on doit être attentif à la santé, à l'hygiène de notre corps. Parce que ça ne nous appartient pas. Et c'est pour cela que nous n'avons aucun droit d'avoir notre médecin. Celui qui continue de dire « Ah, j'ai mon médecin, mon père. Ah, celui-là, il me connaît depuis que je suis né. » Médecin de famille. Très, très bien. Dira le père Maître. Très, très bien. Quand vous étiez avant, mais maintenant, que voulez-vous? Non, vous avez le médecin commun. Et le médecin commun, c'est celui justement que vous n'avez pas choisi. Si vous en connaissez un, vous devez demander la permission d'avoir ce médecin. Mais c'est pas vous qui décidez. C'est pas vous qui choisissez votre médecin. Choisir son médecin, ce n'est pas beau. Ça aussi, c'est rude, vous savez. Parce qu'on aime bien d'avoir son médecin. Avoir son médecin, là, on vous laisse la possibilité d'avoir votre directeur de conscience. Parce que là, c'est la sainte liberté des Saint-Esprit. Et c'est la pauvreté du Saint-Esprit qui m'agit là. Mais on vous dit attention quand même, choisissez votre directeur de conscience, votre père spirituel, choisissez-le à l'intérieur de la conscience. Et si c'est à l'extérieur, que ce soit quelqu'un qui comprenne l'esprit. Oui, on vous donne une direction, mais on peut le faire. Et c'est la pauvreté, je suis tout à fait d'accord, c'est la pauvreté. Et ça doit comprendre dans le sens une pauvreté intérieure. Parce que s'il n'y a pas de pauvreté, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui vit dans le monde, vous devez nécessairement me suivre, hein. Bien, parce que je vous ai raconté cette petite histoire. Quand j'étais pensionnaire chez les pères jésuites, c'était pas un père jésuite, les billets de confession. Puis chaque fois que je passais, tous les billets de confession tombaient par terre. Et je ramassais. C'était normal. Et puis il me disait, quand le vôtre sera parmi ceux-là, alors on entendait le soupir du bon prêtre aspirant à avoir de plus en plus de billets de confession. Manque de pauvreté, il n'était pas religieux. Je ne dis pas qu'il y ait des religieux qui. Ça existe même, mais il ne le dirait pas de la même façon. Il y aurait des subtilités plus grandes. Puisque la pauvreté arrive quelquefois à une subtilité extraordinaire pour aboutir à son beefsteak. Des subtilités extraordinaires. Il faut faire attention. Il faut faire attention à ces subtilités qui sont des singeries de l'esprit saint. C'est très important d'un examen de la pauvreté. Vous voyez, je prends le corps uniquement parce que c'est notre avoir. Notre instinct de propriété est auprès de notre corps. Et la pauvreté, ça regarde le corps. Ça, c'est des pauvretés de fait. Et on accepte d'être un pauvre. Alors c'est très important. sens du corps que l'homme. Maintenant, parce qu'elle est source de vie. Alors, il faut être attentif à ça. Tout est pauvreté, de fait. Mais toutes ces pauvretés doivent être vécues selon l'Esprit Saint. Le don de crainte s'épanouit dans la béatitude des pauvres. Et par notre vœu de pauvreté, nous voulons être en connaturalité avec la béatitude. Nous voulons que la béatitude des pauvres, ce soit notre béatitude. Voyez, éducation fondamentale de l'Esprit Saint. Être des pauvres du Seigneur et vivre de la béatitude des pauvres. Et dire qu'on veut être des témoins de cette béatitude des pauvres. Et donc accepter toutes ces pauvretés de fait. Ne pas exagérer. Parce que la béatitude des pauvres doit être soumise à l'obéissance. Pour notre médecin. Pour notre dentiste. C'est vrai, c'est une pauvreté quand les dents commencent à tomber. D'avoir des dents postiches, c'est pas commode. C'est vrai, ça. En attente de la résurrection des dents. Parce que c'est quelque chose. C'est vrai que la première fois, quand un enfant, quand ses dents tombent, c'est rien, ça repousse. Mais après, ça repousse plus. C'est dommage qu'on n'a pas des dents du troisième âge. Le Seigneur a oublié ça. Il fait au contraire la pauvreté des dents du troisième âge. Ça devrait être ça. Alors on comprend très bien cette pauvreté-là, jusque chez le dentiste. Il faut concrètement, la pauvreté, c'est quelque chose de tout à fait concret, individuel. Ça se concrétise. Vous dites, c'est pour comprendre bien la béatitude des pauvres. Il faut regarder la philosophie du corps et la politique du corps et l'éthique du corps. L'éthique du corps, c'est pas la bioéthique. Pas tout à fait la même chose. Ça va plus loin. C'est l'éthique du corps. C'est très important, ça. C'est très concret. Notre vie religieuse a cet aspect extraordinairement concret de ce réalisme-là. On doit comprendre ça. Et c'est pas commode. C'est pas commode parce que le corps, c'est l'individu. Et la vie commune, c'est plus l'individu. Parce que c'est commun. Et c'est pour ça que ça blesse. Et c'est pour ça que c'est rude. Sens esthétique, tout y en a un peu de finesse, mais il faut le comprendre, il faut le voir, il faut le regarder en face de Marie et en face de l'Esprit Saint. Et je crois que Marie joue énormément dans notre manière de vivre notre pauvreté, parce que la mère, c'est celle qui fait la vie de l'habitant, c'est la mère qui fait le foyer, c'est pas le père, c'est la mère qui fait. Parce qu'elle demeure, c'est la déesse qui demeure. Lousia, l'Estia, c'est la déesse, et ça c'est Marie. Pour notre vie religieuse, c'est Marie. Nous avons besoin d'elle pour vivre, notre vœu de pauvreté. Alors vous comprenez comment le vœu de pauvreté est lié à l'état victimal de l'agneau. Vive cette pauvreté de fait. Vivre toutes ces choses rudes dans notre sensibilité. C'est rude dans notre sensibilité. Et quelquefois, ça peut aller jusqu'à des écorchés vifs. Il faut que tout ça soit vécu dans l'onction du don de crainte, dans la béatitude de la pauvreté. Et c'est cette béatitude de la pauvreté qui fait de nous des victimes d'amour. béatitude des pauvres soit vécue dans la joie. Et vous êtes joyeux d'être pauvre. C'est très important, ça. Joyeux dans cette espèce d'allégresse intérieure d'être pauvre, le magnificat. Le magnificat, c'est le chant de la pauvreté, puisque c'est le chant de la miséricorde. Et de comprendre que la pauvreté nous lie à l'état victimal de Jésus. C'est comme ça que nous devons regarder, nous, la pauvreté. L'état victimal de Jésus qui va jusqu'à la blessure du cœur et qui exige de nous cette attitude de remise totale de tout. Que ce soit rude, parce que c'est fondamental. Tout ce qui est fondamental est rude. Tout ce qui est générique est rude. Tout, c'est du côté de la matière. Ex parte materie, comme dit saint Thomas. Tout ce qui est générique. Ex parte materie. Et alors, ex parte materie, c'est toujours très rude. C'est pas étonnant. La souffrance, elle vient de notre corps. Et la béatitude des pauvres, ça nous fait souffrir. La pauvreté nous fait souffrir. La pauvreté d'état victimal de Jésus, c'est pas seulement ne pas avoir de vêtements. Le tout petit enfant Jésus, la pauvreté de l'enfant, c'est joyeux. La pauvreté du crucifié, c'est d'être habillé de crachats et de sang. C'est l'habit royal de Jésus. De crachats et de sang. C'est rude, hein? Mais c'est très grand. Alors, encore une fois, que ce soit dans l'obéissance, toujours, toujours. Parce qu'autrement, on risque d'exagérer. Et alors, en exagérant, il y a des lendemains, c'est pour entièrement porter. Être pauvre un jour, c'est facile. C'est une manière artistique. Et il y a des artistes qui sont merveilleux pour être pauvres. Il s'agit d'un état de pauvreté. C'est un état de pauvreté. C'est pas la pauvreté d'un jour, la pauvreté religieuse. C'est un état de pauvreté. C'est-à-dire témoigner de cette attitude de pauvreté aux yeux du monde. D'un monde de luxe. Pour ceux qui sont dans les pays nantis, d'un monde de surabondance. Il faut qu'on témoigne de cette pauvreté visible dans la vie commune. C'est pour ça que la vie commune donne un tel témoignage. Ça, je crois qu'aujourd'hui, la vie commune donne un tel témoignage. Parce que c'est par là qu'on manifeste que on n'a plus rien. On a accepté de plus rien avoir. Donc, vécu dans la joie, ce dépouillement. Et ce dépouillement qui doit se refaire tout le temps, parce que ça repousse, vous savez, et ça revient si vite. Accepter de vivre en pauvre, accepter de vivre dans une vie comme accepter d'être les uns auprès des autres, les uns sur les autres. Alors Dieu, par miséricorde, vous accorde de temps en temps d'être solitaire, la journée est déserte. C'est une miséricorde de Marie. Et c'est vrai, c'est une miséricorde de Marie. C'est pas pour échapper à la vie commune, non. C'est pour se cacher dans le cœur de Marie. Il faut que les journées de désert soient pas du tout des revendications par rapport à la vie commune. Enfin, j'échappe à la vie commune. Enfin, je peux être tranquille. Oui, ce ne serait pas juste ça. C'est se cacher dans le cœur de Marie pour mieux vivre cette pauvreté et surtout l'intérioriser. Je crois que les journées désertes, il y a un allègement des pauvretés de fait. Pour que la pauvreté intérieure soit plus vécue. Et donc on soit plus proche du cœur blessé de l'agneau. Et qu'on vive davantage de cette pauvreté de Marie. demander à la Sainte Vierge de comprendre dans la lumière de l'agneau, dans la lumière de la victime de la croix, dans la lumière de la victime de la flagellation, dans la lumière de l'état victimal de Jésus sur la croix, comprendre comment votre corps peut être un moyen merveilleux de manifester l'amour, l'amour divin, par cette pauvreté. Le corps touche, je veux dire, la pauvreté touche votre corps en premier lieu, toutes les pauvretés de fait. C'est fondamental, notre corps. C'est essentiel et fondamental. Et il faut que tout ça soit le lieu où l'Esprit Saint puisse œuvrer en creusant dans votre âme cet esprit de pauvreté, qui est l'esprit du cœur de Jésus, du cœur de Marie. Dans la pauvreté, beaucoup d'opposition, de distinction. D'unité dans notre vie commune, dans notre vie religieuse, provient d'un manque de pauvreté. On cherche sa petite originalité. Alors, c'est important de maintenir